Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, la maman d'un petit garçon de 4 ans, et dans la vie je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. J'ai destiné ma pratique aux femmes et aux enfants, en particulier dans cette période charnière autour de la grossesse, de la naissance et du postpartum, avec une spécificité, permettre au bébé de mieux téter pour mettre en place un allaitement serein en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de familles qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous découvrirez l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels tout spécialisés dans le domaine qui vous apporteront lors d'épisodes experts les informations les plus justes et vous permettront de vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif, il est très simple, offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet. Que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et casser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même, et ce qu'importe vos envies et votre projet. Ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Milkshaker de continuer de s'agiter, c'est vous, par vos partages autour de vous, sur les réseaux, vos écoutes, mais aussi vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serais très reconnaissante de prendre une minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Océane sur Milkshaker. Océane a beaucoup œuvré à son échelle pour démocratiser l'allaitement. Et pour cause, son premier allaitement a souffert de la désinformation. Et cette expérience lui a laissé un goût amer. Elle est donc la maman de deux petites filles qu'elle a toutes les deux allaitées. 5 semaines et dans la souffrance pour la première, et puis 2 ans et demi pour la seconde. Pour ce deuxième allaitement, elle avait tout prévu. Elle savait pourquoi ça avait échoué la première fois et elle était armée. Et cela a fonctionné, mais ne lui a pas évité d'autres difficultés que l'on peut rencontrer avec un bébé. Nuit courte, voire inexistante, et épuisement maternel, auront eu raison de son couple. Et aux 18 mois de Mélina, c'est la séparation. Océane va vous raconter toute son histoire, bien sûr, mais en mettant le focus sur cette période où elle a donc allaité en garde alternée. Comment s'y est-elle prise? A-t-elle rencontré des difficultés? Elle va tout nous raconter. Belle écoute. Salut Océane, bienvenue dans Milkshaker.
Bonjour.
Bon Océane, on s'est retrouvées toutes les deux au milieu d'une story chez Tajine Banane.
Exact.
Disant qu'il fallait écouter l'épisode qu'on avait fait ensemble sur allaitement et séparation, garde alternée, ou je ne sais plus comment c'était tourné.
C'est ça.
Et j'ai dit tiens, on me prête des épisodes que je n'ai pas encore tournés.
Ou ils nous proposaient d'en tourner un ou on nous renvoyait...
Je crois qu'on nous disait il faut écouter l'épisode d'Océane de Aïnantius sur Milkshaker. Donc je dis bon bah écoutez très bien puisque
faisons
vous
le
demandez.
Allons-y. Alors faisons le peuple le demande.
Go. Puisque le peuple le demande, alors faisons cet épisode. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler. On parlera peut-être un peu plus précisément de ça, mais moi j'ai quand même envie de connaître toute l'histoire parce que je sais que
ça a été beaucoup de galères.
Voilà, il y a eu des galères, il y a eu aussi des bons moments aussi, mais voilà, je sens que c'est semé de plein de péripéties ou d'embûches ou tout ce que tu veux.
Absolument.
Et donc, je veux savoir comment tu t'es sortie de tout.
Allez, c'est
parti. Dans les moindres détails.
Et en plus, c'est quand même ça qui a fait la naissance de mon compte sur les réseaux sociaux. Donc, bon, ça a du sens.
Voilà, on sent d'ailleurs quand on est sur ton compte que voilà, quand on remonte le feed, ça parle beaucoup d'allaitement et on sent que ça a été l'essence même
absolument
de ta présence sur les réseaux. Alors du coup, déjà dis-nous, qui es-tu, Océane? Que fais-tu dans la vie?
Alors, j'ai 36 ans, j'ai 2 enfants qui ont 7 et 5 ans. Je suis chef de service en collectivité, je suis juriste de formation. Et puis j'ai un compte Instagram sur l'allaitement et le maternage proximal à la base. Aujourd'hui, l'allaitement étant fini, les enfants grandissant, c'est sur tout un tas d'autres choses. Mais c'est vraiment pour ça que je suis arrivée sur les réseaux, justement parce que j'ai tellement galéré, que ça a tellement été difficile et que c'est devenu beau et merveilleux comme je l'avais souhaité, que si je pouvais partager pour que les autres galèrent moins que moi, ben, s'il y avait au moins, je m'étais vraiment dit que si au moins ça pouvait aider une personne, ben, ça serait déjà ça. Et puis, ben, en fait, ça m'a aidé.
Y compris toi.
Ouais, ben carrément. Moi, j'ai vraiment trouvé aussi un soutien, aussi des gens comme moi qui partageaient des vraies infos et pas uniquement des on-dit, enfin des gens justement qui étaient qui se déconstruisaient petit à petit d'un tas d'injonctions et pour aller vers ce qu'ils sentaient et ce qu'ils avaient envie. Donc, ça a été très aidant pour moi aussi.
Alors, raconte-nous. Combien de temps est-ce que tu as allaité ? Est-ce que tu as allaité tes deux filles ?
Ouais, alors j'ai allaité mes deux filles. J'avais pas tellement idée d'allaiter à la base. Mmh. Je trouvais ça un peu bizarre.
Ouais.
Et puis je suis tombée enceinte. J'avais jamais vu ma maman allaiter, on est 5 enfants, etc. Mais je sais qu'elle m'avait allaité un peu moi et mon frère, les deux premiers. Mais bon, j'avais jamais vraiment vu quelqu'un allaiter en réalité, hein, jusqu'à ce que ce soit moi, hein, globalement.
C'est pour ça que c'était bizarre.
Ouais, je pense. Ouais. Je pense que c'est juste, il y a énormément de choses qui nous paraissent bizarres parce qu'on les connaît juste pas. Mmh. C'est vraiment des fois pas plus compliqué que ça. Et on a l'impression aussi des fois que les gens sont fermés, ont peur, etc. Mais enfin, juste, c'est des fois qu'on connaît pas, hein, c'est tout.
Hein. Bien sûr.
Quand on connaît pas, et bien,
on a peur.
On a peur. Donc voilà. Et en fait, je suis tombée enceinte. Et puis enceinte, et bien, il y a quelque chose d'indicible et de très instinctif qui s'est installé. Et vraiment un instinct maternel très fort qui est arrivé avant même que j'accouche. Qui très naturellement m'a fait dire que je voulais allaiter ma première, dès la première enfant. Et puis, je m'étais un petit peu renseignée, mais pas beaucoup. J'y allais un peu la fleur au fusil, hein, en mode, ça va être easy. De toute façon, je suis convaincue, le lico-dodo était à côté du lit. Je m'étais renseignée sur tout ça et tout. Et puis, en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. L'accouchement s'est déjà très mal passé, il a été assez médicalisé. Je voulais pas de péridurale, j'en ai une, ça s'est mal passé. Il y a eu la ventouse, il y a eu une grosse épisiotomie, etc. Il y a eu des suites de couches compliquées. Donc voilà, l'accouchement n'a pas été simple. J'ai été traumatisée par l'accouchement, le premier accouchement, un vrai traumatisme. J'ai eu vraiment un syndrome post-traumatique, etc.
Ah oui, d'accord.
Avoir la scène du dessus et tout, je suis pas revenue pendant plusieurs jours. Enfin, ça a été vraiment un vrai trauma.
Tu t'es carrément dissociée, quoi.
Ouais, complètement. Et moi, je me suis dissociée au moment où... en plus, c'est fascinant parce que je sais exactement au moment où c'est arrivé, tu vois. Il y a un moment donné où je suis comme montée et j'ai vu la scène du dessus, quoi. Et c'est au moment, parce qu'à un moment donné, il y a une ventouse, le gynéco est tombé en arrière parce que la ventouse s'est arrachée. C'est à ce moment-là que là, j'ai vu le reste de la scène du dessus.
Quoi. Ouais, c'est un mécanisme de défense du cerveau qui trouve que c'est trop violent et qui se dit hop.
C'est ça. Et ça a été vachement dur. Par contre, ce qui est fou, c'est que... j'ai été dissociée à plusieurs endroits parce que, par contre, le pilote automatique maman, ça a été instantané, quoi. Quand Ali Rose, elle est sortie, c'était animal, quoi. Il n'y a pas eu du tout de temps pour lier le lien ou quoi que ce soit. C'était déjà là, quoi.
D'accord.
C'était mon bébé. Je l'ai mise au sein tout de suite. Enfin, je n'ai pas voulu qu'on la prenne. Enfin, c'était vraiment... Ça s'est mis en route tout de suite. Mais par contre, ma conscience vraiment a mis du temps à revenir. Ça a mis quelques...
D'accord.
Et le début de l'allaitement s'est mal passé. Déjà, de toute façon, sur la table d'accouchement, une des sages-femmes m'a dit « De toute façon, vos seins, ils sont quand même vraiment très durs. Alors, c'est super, mais pour allaiter, c'est vraiment pas le top. » Donc là, tu viens d'accoucher, donc c'est sûr que ça part mal, quoi.
Ouais, ça commence très bien.
Donc ça a assez mal commencé avec ça en tête et tout ça. Et puis surtout à ce moment-là, du coup, pas de ressources. Les réseaux n'étaient pas du tout ce qu'ils étaient à l'époque. Hein. C'était il y a 7 ans.
Oui, donc c'était il y a 7 ans.
C'était il y a 7 ans, ça. Et il y a une énorme différence quand même entre les deux. Ça, c'était il y a 7 ans.
Complètement.
Voilà. Et moi, les ressources, je ne les connaissais pas. La maternité, je ne les connaissais pas du tout non plus. L'allaitement, ce n'était pas du tout encore quelque chose dont on reparlait.
Comment tu t'étais préparée du coup? Quand tu disais,
j'avais regardé quelques vidéos YouTube et j'avais quand même vu les sites de la Lechelik passer.
Ouais.
Et puis j'en avais parlé. Est-ce que j'en avais parlé à ma sage-femme? Je pense que j'en avais un peu parlé à ma sage-femme et qui m'avait dit, en gros, c'était. C'est vrai qu'il n'y avait pas ce côté. L'allaitement peut être difficile. C'était faut se faire confiance et puis voilà. Et en fait, bah, c'est pas toujours si simple. C'est vrai, mais c'est pas toujours si simple.
C'est une bonne base, mais il faut 2-3 autres infos.
Ouais, c'est ça. Et en fait, moi, il y avait des infos voilà, que j'avais pas. Donc là, en l'état actuel, j'ai ma rose, etc. Ça me fait extrêmement mal. Et à un moment donné, j'essaye de continuer. Et rentrer à la maison, on est resté plus d'une semaine. Et rentrer à la maison, alors il m'embête à la maternité parce qu'elle prend pas de poids, etc. Enfin, pas assez, a priori. Enfin, en fait, en vrai, j'ai revu les courbes après, il n'y a pas de souci. Mais bon, bref, il te stresse toujours avec ça. Donc, il la complémente au biberon. Mm-hmm. C'était merveilleux. Et comme j'avais déjà très mal, c'était de pire en pire. Et ça a été comme ça, de pire en pire. Et en fait, à un moment donné, rentré à la maison, il y a du lait qui a coulé, mais qui était rouge sang, quoi. Et en fait, je saignais complètement et tout. Et là, à ce moment-là, on devait être à 5 semaines. Et là, je pouvais plus, quoi. J'étais en sang, j'avais les seins complètement bleus. Enfin, j'avais tellement mal, ça ne s'arrangeait pas du tout. J'étais pincée et tout. Enfin, voilà. Donc, je pensais vraiment que c'est mes seins qui n'allaient pas, quoi.
Oui, parce qu'on t'avait dit ça à la base.
C'est ça, on m'avait dit ça à la base. Et du coup, j'ai vraiment pas forcément... j'étais vraiment, quand j'ai accouché de ma première, et ça a entièrement changé pour la deuxième, mais pour la première, j'étais très confiante envers les autres et les sachants, ceux que j'estimais sachants en tout cas, en qui j'avais confiance. Parce que pour moi, quand on est personnel médical, si on ne sait pas, on dit qu'on ne sait pas. Donc, si on ne dit pas qu'on ne sait pas, c'est qu'on sait et que ce qu'on dit, du coup, c'est vrai.
Et
en fait.
Non, malheureusement.
Et en fait, non, parce que l'honnêteté intellectuelle, eh ben, ce n'est pas la même pour tout le monde. Et soignant ou pas soignant, c'est pareil. En fait, c'est juste une question de personne.
Les soignants sont des humains avant d'être des soignants. Et quand ils ne savent pas et qu'ils croient savoir. Le problème, ce n'est pas qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils croient savoir.
Ouais, c'est ça. Et ça, c'était voilà. Et donc, du coup, je me suis pas posé d'autres questions que ça. J'ai juste arrêté. J'ai envoyé un mail. C'est son papa même qui a envoyé un mail à 11h du soir à la pédiatre en disant là, ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut qu'on prenne comme lait. Enfin, faut qu'on la passe au biberon. Enfin, voilà. Et voilà, ça a duré. Du coup, je l'ai allaité comme ça, en serrant les dents comme pas possible pendant un mois et demi, un peu moins d'un mois et demi, 5 semaines.
D'accord.
Voilà.
C'est déjà pas mal en serrant les dents, hein, dis donc.
Ouais, c'était dur, quoi. C'était vraiment dur.
Ouais, tu m'étonnes.
Ouais. Et en fait, voilà. Et puis bon, bah c'est tout. On est passé au biberon. Vraiment la mort dans la main. Enfin, vraiment, ça a été pour moi, ça a été vraiment un déchirement. En plus, ma Rose, elle aimait pas du tout dormir en cododo. Donc j'ai tenté un jour. Du coup, elle est partie dans sa chambre. Elle avait 2 mois et là, elle a fait ses nuits tout de suite et tout. Bon, j'étais pas prête non plus. Bon, tu vois, ça s'est pas du tout passé comme j'avais prévu. Bon.
C'est toi qui as pris la décision d'arrêter ou quel rôle ton conjoint il a joué dans tout ça? Parce que c'est toujours difficile pour eux quand ils voient leur femme souffrir.
Il était très suivant, mais soutenant. Voilà, ouais. Il était soutenant, mais il me suivait. Il n'a pas pris d'initiative, etc. Okay. Mais il avait vraiment un rôle qui était bien. Il était vraiment, il était soutenant. Il était un peu, il était inquiet, évidemment. Ah, oui. Pas du tout pour Ali Rose qui prenait bien, ça y est, pas de souci. Mais par contre, pour moi, pour mon état, quoi.
Ouais.
Donc voilà, et c'est lui qui a envoyé le mail et qui a été soutenant et qui m'a rassurée après. Et puis ensuite, c'est vrai qu'après, on s'est pas mal aussi intéressé au portage et tout ça. Donc du coup, c'est un peu compensé. Et puis, c'est passé quand même relativement bien. Mais franchement, c'est resté là quand même. Enfin, vraiment, c'était un truc
Entre l'accouchement qui se passe pas bien, toi qui te dissocies, j'imagine que ça t'a demandé du travail sur toi-même pour aller mieux après.
Fait.
Probablement que tu étais douloureuse.
Très très douloureuse. Ouais, j'ai pas pu marcher pendant au moins 15 jours. Enfin bon, ça avait été costaud quand même.
Ouais, ce qui n'arrange pas non plus des démarrages d'allaitement pour s'installer,
Exactement.
Ouais, bien sûr.
C'est exactement ça.
Ouais, donc premier postpartum immédiat, un peu ardos.
Franchement, hyper ardos. Et puis c'est tout. Et puis en fait, par contre, en termes de fatigue, Ali Rose, effectivement, elle fait ses nuits, elle a un mois et demi ou 2 mois. Enfin, donc du coup, après, ça a été très simple. Elle a été vraiment hyper facile. Enfin voilà, elle a toujours bien mangé, elle a pas du tout eu de troubles de l'oralité de quoi que ce soit. Elle était relativement vite autonome. Enfin, elle était pas, on pouvait la poser, elle s'endormait n'importe où en sortant chez les copains, machin et tout. On la posait, elle dormait. Enfin bon, c'était super facile. Et puis elle faisait ses nuits, quoi.
Ouais.
T'as quand même pas le même postpartum non plus, hein, quand ça arrive, et le même début de maternité, quoi. Et donc du coup, bah, fleur au fusil, hyper facile, un bébé, faisons un deuxième. Franchement. On sent venir le truc ou pas. Et donc Ali Rose a donc 13 mois, je tombe enceinte.
Mais volontairement.
Ah ouais, absolument. Ah pas du tout, non. Non, puis en plus ça a mis un peu de temps et tout, donc franchement, là on s'y rapprochait trop, trop easy, quoi, ça va être nickel. Et puis voilà, et puis donc je suis enceinte et tout ça. Ali Rose a sa visite juste avant ses, un peu avant ses 2 ans, vers ses 18 mois. Moi, je suis enceinte de 6-7 mois parce qu'elle a dû un peu de tartre sur les dents, sur les petites dents du bas, alors qu'elle a même pas 2 ans, quoi. Bon. Donc on va voilà, donc on va voir la dentiste et on arrive chez le dentiste et chez la dentiste Marie, un peu ma déesse quand même, et qui me dit tout de suite, je la connaissais pas, elle me dit mais avant de regarder la bouche d'Ali Rose, mais vous avez pas eu beaucoup de difficultés à allaiter? Et là tu sens le truc qu'on t'enlève déjà un peu des épaules. Si, pourquoi? Ah bah parce que je pense qu'elle a doit avoir un gros frein restrictif de langue, ça se voit tout de suite à la forme de son menton et de sa bouche, et d'ailleurs vous l'avez aussi et votre conjoint aussi, donc ok. Et là, on m'a juste enlevé 2 tonnes des épaules, quoi, globalement, pour le poser
toute
à côté.
Toute ta culpabilité.
Quoi. Exactement. Et donc, du coup, elle a regardé dans sa bouche, elle a dit oui, effectivement, c'est ça. Donc, en fait, il n'est pas vraiment. Donc, elle m'a expliqué, elle m'a dit qu'il n'était pas vraiment restrictif, mais par contre, il était très épais et pas du tout mobile. Et du coup, sa langue ne bouge pas, bouge juste un peu devant, mais elle ne déglutit pas du tout de la même façon. Elle ne bouge pas à l'arrière, en fait, elle est complètement bloquée, quoi. Et donc, voilà, elle avale en fait en poussant un peu son bout de langue sur ses dents. Et du coup, c'est évidemment ce qu'elle faisait avec le mamelon, et c'est pour ça, etc. etc. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle avait du tartre, parce que du coup, la salive, ça avale pas bien, et donc il y en a toujours
ça qui stagne.
Voilà. Et là, voilà, elle me dit, bah, je vois que vous êtes enceinte, donc vous savez, c'est... en plus, vous l'avez les deux, en plus, les deux parents. Donc du coup, vraiment, faites vérifier ça tout de suite à la naissance, parce que c'est vraiment rien à faire de couper un frein, et ça peut vraiment changer complètement votre allaitement, quoi. Donc là, voilà, alléluia. Et là, elle me donne aussi le nom d'une consultante IBCLC qu'elle connaît à Nantes. Et voilà, et en fait, bah, ça a tout changé, quoi. Cette rencontre-là, elle a quand même tout changé.
Parce que là, du coup, deuxième grossesse, tu t'étais dit, je vais essayer d'allaiter.
C'est ça, je vais essayer encore, mais je ne forcerai
plus de renseignements.
Non, je n'avais pas plus de renseignements.
C'était pas tellement plus renseigné que...
Il y a 5 ans, c'était pas tellement plus, tu vois. Et en fait, par contre, quand j'ai eu ça, j'ai eu ces infos-là, j'étais enceinte, je commençais à partager un petit peu sur les réseaux, et tout de suite, ça, je l'ai dit, enfin, j'ai tout de suite dit tout ça, quoi. Et j'ai raconté ce qui se passait, et il s'est passé exactement la même chose au niveau de l'allaitement. Par contre, l'accouchement était très différent, ça a été un accouchement physiologique, j'ai même pas eu de perf, rien, m'a pas touchée. J'ai accouché en 1h30 toute seule, machin. Pourtant, elle était coincée de la même façon que sa sœur, mais sauf que là, c'était pas médicalisé, enfin, tout était différent. Je l'ai mise au sein, j'ai eu la même douleur, j'ai reconnu tout de suite, j'ai signé une décharge pour qu'on sorte le lendemain de la maternité, déjà, et il n'y avait pas le choix, c'était comme ça, ouais. Je signais ce qu'on voulait, mais voilà, parce que j'étais restée une semaine aussi, hein, pour aller rose, une semaine, ça a le temps de bien foirer ton début d'allaitement.
Une semaine ?
Ouais, 8 jours même.
Voilà qui n'arriverait plus très souvent en ce moment.
Non, c'est sûr. Et donc là, c'était le lendemain, je sortais. De toute façon, j'étais sortie de la salle d'accouchement avec Mina dans les bras en marchant. Donc, de toute façon, le lendemain, voilà. Ouais. Et j'ai tout de suite vu consultante IBCLC. Pourtant, c'était en plein mois d'août. Hein, mais j'avais tout bordé avant. J'étais partie avec tous les numéros. Et le lendemain de l'accouchement, j'ai appelé tout le monde. J'ai harcelé tout le monde. Toutes les conseillères léchéliques que j'avais pour trouver une ORL, etc., etc. Et du coup, à J10, on était chez l'ORL. Et à J12 ou 13, elle se faisait opérer et couper son frein de langue.
D'accord, qui était le même que la grande.
Exactement. Et là, on me l'a ramenée, donc elle est partie endormie en salle d'opération, ça dure 3 minutes chrono, ouais. Ils me l'ont ramenée, elle dormait toujours, donc c'est un peu impressionnant parce qu'il y a quand même un peu de sang, etc., mais elle dormait toujours, elle ne s'était pas vraiment réveillée en réalité, et je l'ai mise au sein, et là, bah, complètement différente.
Directement.
Donc voilà, après, il y a eu 2 jours, et on m'avait prévenu, il peut y avoir un peu, c'est pas forcément une régression, c'est juste qu'il y a une technique de succion qui a été faite comme ça, donc le temps que bien ça se libère, etc., donc on a vu un ostéo quand même une fois,
ouais.
Mais qui a regardé, qui a dit non, moi je pense effectivement c'est plutôt le temps que la technique de succion se fasse, mais il n'y a pas de tension, ça c'est bien. Et effectivement, franchement, au bout de 15 jours, mais déjà les douleurs n'avaient absolument rien à voir, et puis au bout de 15 jours ça roulait, et puis j'ai plus jamais eu mal, quoi.
Ah ouais, donc là vraiment le cas des frénos, ouais. Avant, après, c'est d'une évidence pure.
Oui. Tout à fait.
C'était ça qui merdait.
Tout à fait. Et du coup, et c'est pareil. Du coup, évidemment, il n'y a pas du tout le même problème de dents au niveau du tartre, etc. Enfin, oui. Bon, voilà.
Ok. Donc, du coup, là, on est à J10. Voilà. En quelques jours, ça va mieux. Toi, tu avais re-eu des crevasses et tout ça comme la première fois? Parce que la première fois, t'avais des crevasses. Hein, si ça saigne et tout, c'est que...
La deuxième fois aussi, mais un peu moins. Parce qu'en fait, comme je savais, j'étais beaucoup plus apaisée. Et du coup, je forçais pas le truc. Ali Rose, des fois, je la laissais au sein tellement longtemps. En fait, là, quand j'avais mal, bon, bah, j'attendais 2-3 minutes, mais je l'enlevais régulièrement.
D'accord.
Je l'enlevais, je reprenais l'autre, etc. c'était complètement différent parce que je savais d'où venait le problème et que c'était pas moi, donc je forçais pas comme comme la première fois. C'est pas du tout la même chose, quoi. Quand tu sais que c'est en attendant, que c'est son frein qui va être coupé et que c'est sa petite technique de succion, bon bah tu l'arrêtes, tu rechanges, tu machin. C'était tellement différent, quoi. Même dans la façon de lui parler, à l'hiro, je serrais juste les fesses parce que je savais, enfin voilà. Là, je disais, ma chérie, là tu me fais vraiment trop mal, je t'enlève, tu prends l'autre, etc. Enfin, c'était pas du tout la même chose.
Ouais, bah tu savais très bien où t'allais,
voilà.
Quoi.
C'est ça, c'est ça. Et donc voilà. Et donc là, je me suis dit, non, mais c'est vraiment trop bête parce que. En sachant ça, c'est quand même vraiment pas grand-chose, quoi. Mais c'est pas forcément évidemment ça tout le temps. Mais quand c'est ça et qu'on le sait pas, c'est trop dommage, quoi.
Ouais,
c'est
bah
trop dommage.
Enfin,
et donc du coup, c'est vraiment pour ça que j'ai vraiment eu à cœur de partager ces infos-là, quoi.
Parce ouais, je comprends.
C'est trop bête, c'est trop bête. Et voilà. Et donc là, on est à J10, J15, enfin un mois et tout. Ça se passe très bien côté allaitement. Les nuits se passent très moyen. Je sens bien qu'il y a un problème et là commence le calvaire, pas d'allaitement mais le calvaire des nuits, et là celui-là il a duré longtemps et ça a été très 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 difficile. J'ai atteint le stade d'épuisement maternel, le vrai de vrai, quoi. Enfin vraiment où tu pars au travail le matin et tu t'endors dans ta bagnole avec tes enfants derrière le matin à 8h30, quoi. Enfin vraiment, j'ai eu deux accidents, enfin ça a été vraiment pas grave en ville et tout, mais ça a été super loin.
T'as su pourquoi elle dormait pas comme ça?
Ouais, on a su ça tard. On a su ça, elle avait 10 mois. Alors moi, bien sûr, c'était l'allaitement, bien sûr, et puis la mère, et puis
ah
tout
bah
ça,
oui,
et puis
bah
tout
bien
ça,
sûr.
Évidemment, évidemment. Sauf que là, on ne me la faisait pas, parce que moi, c'était ma deuxième. J'avais déjà une première, qui avait fait ses nuits à 2 mois, donc non, en fait, non.
Ouais.
C'est non, hors de question. Et elle dormait déjà très bien quand je l'allaitais, ma première. Donc non, ça, c'est clair que non. Je dis à ma fille, il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, elle va très bien la journée quand elle est assise.
Ouais.
Et quand elle s'allonge, ça ne va pas. Ce n'est pas possible. Donc du coup, jusqu'à ce qu'elle grandisse un peu et qu'on m'écoute, parce qu'il y a eu, tu vois bien, il y a les excuses des coliques au début. Donc on attend que ça passe. Et puis ensuite, il va falloir qu'elle se verticalise un petit peu. Bon, puis elle a marché à 10 mois. Alors, à un moment donné, à 10 mois, quand elle marchait et que ça continuait toujours pareil, je dis là, maintenant, ça suffit, faut faire quelque chose. Et en fait, moi, je savais très bien qu'elle avait mal, je sentais bien qu'elle avait mal. Et effectivement, elle avait du reflux.
Bah oui.
Mais elle régurgitait pas, beaucoup. Et je dis, mais ça n'a aucune espèce d'importance, je suis désolée, mais sa sœur, elle régurgitait en jet et elle a jamais été douloureuse, jamais. Alors qu'elle avait des régurgitations, c'était impressionnant. Quand on a déménagé, j'en ai retrouvé encore. Enfin, c'était dingue. Et que Mélina, non, c'était beaucoup plus interne que ça, mais vraiment, ça lui faisait mal. Et il y a eu autre chose, c'est que qui nous a vraiment aidé, c'est que vers 11 mois, 10-11 mois, elle a dû faire 5 ou 6 otites d'affilée, comme sa sœur d'ailleurs à l'époque. Et là, je l'ai ramenée chez l'ORL qu'avait sa sœur, parce que sa sœur avait eu des yo-yo dans les oreilles il y a 13 mois. Elle avait 9-10 mois, Mélina. Je l'ai ramenée chez l'ORL, elle a dit, mais je l'opère demain, en fait, parce que là, tout son tympan, il va percer, hein, tellement il est plein. Elle dit là, c'est pas étonnant qu'elle puisse pas. Elle doit avoir toute une inflammation au niveau de la sphère ORL parce que et c'est totalement normal que là elle puisse pas être allongée et puis ça doit pas dater d'hier. Donc,
et qui dit inflammation de la sphère ORL chronique dit très très souvent reflux, parce qu'en fait c'est le reflux en remontant, même s'il sort pas, qui crée l'inflammation.
Exactement. Et donc du coup elle a eu des yo-yo dans les tympans. Le lendemain, je l'allongeais, elle s'endormait allongée. Ce n'était jamais arrivé en 10 mois, jamais. Donc c'est ça qui a vraiment changé la donne, sauf que la peur de la douleur dans ses habitudes de sommeil en 10 mois ont eu le temps de bien bien s'ancrer, quoi. Et donc du coup ça a été très très long à la sécuriser par rapport à ça.
Le sommeil est un moment angoissant et douloureux.
Absolument, absolument. Et c'était absolument, elle n'a pas pu s'endormir seule avant très 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 longtemps, même en voiture, même n'importe quoi. C'était vraiment de lâcher pour s'endormir, c'était vraiment très compliqué. Assise, ça allait, mais en position allongée, c'était impossible. Et donc, ça a mis, elle a fait vraiment, elle a arrêté de se réveiller, elle s'est endormie plus facilement, elle avait plus de 2 ans.
Comment ça s'est passé, du coup, les nuits, il fallait qu'elle soit au sein pour se rendormir?
Ouais.
Enfin, comment vous vous organisiez?
Je dormais avec elle.
Cododo, branché au sein. Et,
ouais, c'est ça. Et alors, moi, ça me pesait quand même vachement parce que je me sentais vraiment très, très envahie, quoi. Parce que j'adorais l'allaitement et tout. Mais là, on a été jusqu'à la séparation, en fait, quasiment. On était sur un rythme de nourrisson, c'est-à-dire qu'on était à 15-20 tétés par jour, quoi. C'était énorme.
Ouais, donc combien la nuit? Parce que plus la nuit, parce qu'il fallait la rassurer, ouais.
Ouais, tout à fait. Et en plus, j'avais repris le travail. Elle ne voulait pas boire de lait à la crèche, donc j'allais l'allaiter le midi. je faisais l'aller-retour le midi à la crèche pour l'allaiter, je la récupérais, enfin voilà, c'était très intense quoi, c'était intense, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me disait que, ben, je sais pas, elle avait, je sais pas, je sentais qu'elle avait besoin de ça, enfin c'était, bah, c'était oui. assez indicible, mais j'y trouvais mon compte par rapport à ça. En revanche, la nuit et la fatigue, c'était hyper difficile, leur papa en plus était en déplacement la moitié du temps. Donc, j'étais la moitié du temps toute seule. Mais de toute façon, les nuits, c'est moi qui les gérais. Enfin, globalement, ils pouvaient assez peu faire de choses. Donc, parfois, quand j'étais au bout du bout et que ça devenait un danger, parfois, ils la prenaient quelques heures la nuit. Mais c'était... je sais qu'elle pleurait.
Il fallait tourner, en fait. Deux, il fallait la bercer. Enfin, fallait
mais même,
bouger.
Ça marchait pas des masses. Il fallait vraiment qu'elle soit au sein pour se redétendre, et donc du coup...
Donc elle a eu un reflux pendant très longtemps, et puis c'est voilà. parti en système ORL après.
En fait, c'est ça, c'est exactement ça, et aussi j'ai fait une éviction des produits laitiers quand même à un moment donné, parce qu'elle devait avoir 14 mois, on a quand même été chez l'allergologue, parce que je suis quand même... Et en fait, on a fait un test, et elle nous a dit que... Alors, on n'était pas au stade de l'allergie, mais qu'il y avait... c'était quand même très net qu'il y avait quand même une
intolérance aux
protéines de lait de vache. Ouais. Donc elle a dit essayez, ça va passer, c'est quelque chose qui arrive régulièrement, ça peut passer, mais effectivement essayez de réduire et tout. Donc j'ai réduit et c'est vrai qu'on a trouvé qu'il y a une amélioration, mais voilà, ça a été le côté un peu long, mais bon voilà, ça a pas empêché qu'elle a été allaitée 2 ans et demi hein, quand même.
Ouais, je pense que là c'est important de rappeler que les reflux gastro-œsophagiens, alors qu'un bébé reflux et des remontées gastriques, c'est normal. D'accord. Tous les bébés jusqu'à un certain âge, et en effet, en gros, la verticalisation, tenue assise, etc., ont éventuellement des régurgitations, et c'est OK. Par contre, plus ça régurgite souvent, plus ça régurgite éventuellement plus acide, parce que allergie, etc., enfin voilà, si c'est trop souvent, trop fort, trop intense, et ben ça finit par irriter cet œsophage. Mais la régurgitation, la remontée acide, ne sort pas toujours. Et les bébés chez qui ça ne sort pas, moi, à titre perso, en consultation, si je les entends, parce que ça s'entend, ça fait des bruits de tuyauterie, ces bébés, vous les entendez ravaler, ça mâchonne, etc. Ces bébés-là, je m'en méfie bien plus que de ceux qui régurgitent, parce qu'en fait, ils le gardent à l'intérieur et ça fait l'ascenseur dans leur œsophage. Donc, c'est ce qu'on appelle le reflux interne, en fait. Et donc... Si vous entendez tous ces signes-là chez votre bébé, peut-être qu'on en reparlera dans un autre épisode un jour, c'est important d'insister. Et si on vous dit dans votre bébé, il ne régurgite pas, il n'a pas de reflux, ça, ce n'est pas suffisant comme explication. Ça, on ne peut pas évincer un reflux sous prétexte que le bébé ne régurgite pas.
Ben là, c'était exactement ça, quoi.
Ouais.
Donc voilà, et puis bon, ben on a continué comme ça. Moi, j'ai repris le travail, elle avait 6 mois. Je partageais énormément aussi, du coup, là, sur la reprise du travail et l'allaitement, ouais. parce qu'il y avait toute l'organisation avec le tire-lait et tout ça.
Comment ça s'est passé, du coup, parce que tu avais un boulot, donc tu étais salariée.
Ouais,
c'est
j'étais,
ça.
J'étais fonctionnaire, j'étais responsable d'équipe et tout.
Des
et
horaires puis, classiques, matin.
Horaires classiques, ouais. C'était pas très compliqué, honnêtement, pour moi, par rapport à beaucoup d'autres, parce qu'en plus, comme j'étais manager, j'avais mon bureau à moi. Donc, c'était vraiment pas compliqué.
Tu pouvais tirer ton lait comme tu voulais. Ouais. Elle prenait le biberon facilement.
Pas du tout. Par contre, elle a jamais pris de lait.
Ah oui, tu me disais, elle a jamais pris, voilà.
Non, jamais. Elle a jamais pris de lait autre qu'à la source. Donc, du coup, jusqu'à ses 11-12 mois, j'ai été l'allaiter le midi à la crèche.
D'accord. Qui était pas loin.
Ouais, qui était pas loin, qui était à 10 minutes. Donc, c'était gérable. Souvent, je mangeais pas, mais bon, c'est pas grave. Voilà, j'allais l'allaiter un petit coup à midi. Elle faisait sa tétée. Souvent, elle s'endormait d'ailleurs. Et puis, arrivé vers 11-12 mois, bon, bah, voilà, on en a parlé avec la pédiatre aussi, elle a dit que ce n'est plus du tout nécessaire là, qu'elle ait un apport de lait dans la journée. Et de toute façon, en plus, vu comment elle se rattrape la nuit, hein, bon, voilà, je vais te dire. Hein. Donc voilà, donc effectivement, j'ai arrêté d'y aller vers 11-12 mois, et puis j'ai arrêté de tirer à peu près dans le même temps, un peu après. Parce que du coup, je tirais, mais je jetais. Hein. Enfin, à un moment donné, j'avais 6 ou 7 litres dans le frigo, enfin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le congèle. Ça ne servait à rien.
Ouais, tu tirais juste pour te soulager.
Ouais, et puis pour maintenir, parce que je me disais que voilà. Et puis en fait, ça s'est adapté et elle avait son lait le soir, enfin, partir de fin d'après-midi jusqu'au lendemain, et puis ça allait très bien.
Bah oui, comme un bébé qui aurait dormi la nuit et tétait le jour, quoi.
Exactement, dans l'autre sens, c'était juste l'inverse. Voilà, donc puis ça comme s'est bien régulé.
Comme c'est la nuit que la lactation est à balle, non, c'est bon, ça entretenait la machine.
C'était nickel.
En dehors de ta fatigue, tout allait bien.
C'est ça. Donc voilà. Et donc, ben, là après, ben, c'était rythme de croisière, voilà, c'était la nuit, mais avec effectivement ben, cet épuisement-là qui était quand même de plus en plus difficile. Et puis voilà. Et puis ben, là, je pense que j'ai commencé à me sentir quand même super seule. Enfin, ça a été, je pense que là, l'épuisement, voilà, je me suis sentie quand même super seule et assez négligée, je pense. Et bon, ben, c'est dans ce moment, c'est à ce moment-là, elle avait 18 mois qu'on a décidé de, enfin, que j'ai voulu qu'on se sépare. C'était plus simple quand j'étais toute seule que quand on était tous ensemble hors déplacement. Donc bon, à un moment, voilà. Ouais,
tu t'es dit où est l'intérêt du couple si c'est pas.
Ouais ouais. Puis c'était pas possible. Là, c'était bon. Il y avait un côté et je pense vraiment aussi quand même qu'il y a eu un côté aussi. Il y avait un peu que ça à ce moment-là pour que. Je savais qu'il y avait de la garde alternée, tout ça, je pense inconsciemment, c'était pas du tout construit comme ça dans ma tête, mais je pense que j'ai su que ça allait être ma survie aussi, quoi.
Ouais.
C'est ce qui s'est passé hein, quand même, parce que du coup, on a fait la garde alternée tout de suite. Mélina, elle avait 18 mois, Alirose, elle avait pas 3 ans. On a tout de suite fait la garde alternée 2 jours et demi. Et en fait, ma charge mentale s'est effondrée, celle du papa a explosé. C'est d'ailleurs bien là que...
Qu'on se rend compte des inégalités.
Que moi, je m'en suis rendu compte, effectivement, du niveau que je gérais et de ce que j'avais encaissé. Et lui, inversement, quoi. Donc, mais ça, c'est vrai que ça a été un peu ma survie à ce moment-là, quoi. Parce que du coup, j'avais quand même moitié du temps où je pouvais souffler, quoi. Et ça a été vraiment... C'est vrai qu'à refaire, je me dis, elle était vraiment petite et tout. Ça aurait été peut-être pour elle mieux qu'elle soit... qu'avec sa mère, par exemple, qu'on se sépare, mais que j'ai les enfants jusqu'à ce qu'elles aient 3-4 ans, etc. Mais en fait, pas du tout, parce qu'on ne peut même pas réécrire l'histoire comme ça, parce que l'épuisement dans lequel j'étais, il était réel, quoi. Et de toute façon, je n'aurais pas du tout été une bonne mère et capable de les assumer seule à ce moment-là, vu dans l'état où j'étais. C'était juste pas possible physiquement, quoi.
Enfin, et dans cet état d'épuisement, parce que c'est con, mais en fait, ça demande aussi de l'énergie de se séparer. Enfin, ouais. Pour entendre pas en mal fait, d'histoires, etc.
Oui,
je suis soignante.
Bien sûr.
Enfin, j'entends aussi le côté. Franchement, là, je peux pas bouger quoi que ce soit. Ce serait le truc en trop.
Mais moi, je suis partie avec quelqu'un, et donc du coup, ça. Enfin, avec pas physiquement, mais en tout cas en relation avec quelqu'un. Et du coup, ça, je pense que c'est ça qui a donné le.
Impulsion.
Tu vois justement cette force et cette impulsion là. Et ce soutien à ce moment-là qu'il fallait et vraiment cette force parce que c'était ça quoi. C'était...
D'accord.
Et donc c'est ça qui a permis. Ça a pas duré d'ailleurs, tu vois, mais ça a permis de
faire passer la crise.
De faire passer.
Quoi.
Ouais. Tout à fait.
Quelle part prend l'allaitement éventuellement dans le choix de séparation? Tu vois, bah dans qu'est-ce que ça impliquait dans votre quotidien, dans cette organisation, dans le fait que tu prenais plus de charges que lui. Est-ce que ça prend une part dans la séparation en elle-même? Et est-ce que quand même, à ce moment-là, tu te dis, mais je l'allaite et j'ai envie de continuer de l'allaiter, et ça va être la galère ou non, parce qu'elle a 18 mois et
pas
que tu sais
tout.
Que ça va être faisable?
Ça me stresse pas du tout, tu vois, ça me stresse pas du tout. Elle prend plus de lait à la crèche, je tire déjà plus mon lait, enfin... Non, franchement, ça ne me stresse pas à ce niveau-là. Je me dis que... Et puis, de toute façon, je suis un tel état d'épuisement. Elle a déjà 18 mois. Je me dis, bah, au pire, ça s'arrête.
Ouais.
C'est pas forcément grave. Mais à cette époque, je suis encore dans ma tête allaitement non écourté, quoi. Pour l'instant, je suis encore dans ma tête. C'est elle qui s'arrêtera. Moi, je continue jusqu'à ce qu'elle continue. C'est pas comme ça que ça s'est fini. Mais,
ouais.
Mais à ce moment-là de la séparation, je suis encore pour allaitement long. Enfin, long ou pas, mais surtout non écourté. Quoi. Vraiment,
sauf que t'es tellement épuisée que tu te dis, si jamais elle se détourne du sein à cause de ça et que c'est induit à cause de ça,
ben tant pis.
Tant pis.
Voilà. Ouais, voilà. Et en fait, elle s'est pas du tout détournée du sein. Hein. disclaimer, absolument pas. Alors en plus...
Elle n'avait pas l'air de prendre cette route hein, depuis le début, je ne vais pas
te... Non, a priori non, c'est ça. Et donc en fait, même la garde alternée faisant, elles sont parties le premier été en vacances avec leur papa qui est américain aux États-Unis. Donc elles sont parties 15 jours, donc elle n'avait pas 2 ans, donc c'était la première fois qu'on était séparés 15 jours, c'est quand même énorme.
Ouais.
12 jours exactement, 13 jours. Et donc là, je me suis dit, bon, on verra. Je ne pense pas, mais on verra. Et en fait, elle est revenue à l'aéroport, elle m'a sauté dessus, c'était comme quand elle était partie, quoi. Je veux dire, elle n'avait pas du tout oublié quoi que ce soit, et ça a repris comme en 40, et il y avait toujours du lait et tout, et ça n'a pas... Et je n'avais pas tiré pourtant...
T'as pas tiré pendant 15 jours ?
Non.
Et t'as encore du lait quand elle revient ?
Ouais, c'est revenu exactement pareil.
Ah ouais.
Mais j'ai eu du lait jusqu'à l'année dernière, tu vois, et elle a 5 ans. Donc, de toute façon, je pense que globalement, c'était vraiment installé.
Ça roulait,
installé
quoi.
Oui. Ah ouais, ouais, ouais.
Ah ouais, c'est reparti comme en 40, quoi.
Ouais.
Bon, bah écoute,
ah, vraiment.
Parfait comme quoi. Hein. Faut pas s'alerter quand on peut pas allaiter pendant une journée.
Ouais, non, non, clairement pas, franchement. Après, je sais qu'on n'est pas tout égal par rapport à ça et que voilà, et que des fois, ça peut... Mais je sais aussi que même si ça descend et tout, il y a quand même des techniques. Surtout, enfin, ça dépend quand est-ce que ça arrive. Là, elle avait 18 mois, quoi.
Évidemment.
Hein. C'est pas comme si elle en avait 4, 6, enfin, tu vois. Là, 18 mois, c'est quand même, l'allaitement, il est très, très installé. Et puis même si ça redescend, il y a des moyens pour vraiment faire repartir. Enfin, c'est ce que je m'étais dit, tu vois. Je m'étais dit, au pire, un coup de power pumping, un truc et tout. Enfin, ça ira, j'arriverai
à... Ça va repartir.
Ça va repartir, quoi. Et puis, bon, bah, en fait...
Et là, la garde alternée, elle avait déjà commencé, n'est-ce pas ?
Ah ouais, ouais, elle avait commencé déjà depuis 4 mois.
Et alors, du coup, quel orga, là, tu trouves dans,
et ben,
cette,
l'orga,
dans cette garde alternée ?
En réalité, les trois premiers mois, j'ai un petit peu tiré quand je ne les avais pas. Pour me soulager au début, parce que j'allais exploser. Parce qu'elle tétait quand même énormément, hein. Je sais pas combien, mais vu ce que je tirais la journée que je jetais alors qu'elle buvait la nuit, c'était énorme. Je tirais pas loin d'un litre et ce que je jetais en journée. Je sais même pas combien elle buvait la nuit, mais enfin bref, c'était énorme. Et du coup, au début, c'était quand même ardent.
Personne,
quoi,
à l'époque te parle du don de lait.
Ben si, mais j'ai demandé, mais ils en voulaient pas. À Nantes, ils en voulaient pas.
Ah bon?
Non. Plus de 6 mois.
Ah, mais oui, oui, bien sûr. Oui.
Ça dépend des lactariums.
Oui, ouais. Mais souvent, passé un certain laps de temps, ils considèrent.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et du coup, j'ai dit, mais vous êtes sûr, est-ce que vous pouvez pas? Donc, ils avaient appelé Bordeaux et tout ça, parce que pour leur, parce que moi, j'avais eu Bordeaux ou Lyon qui eux prenaient sans limite, je sais plus lequel, je sais plus dans quelle ville. Je leur avais dit, mais écoutez, mais appelez Nantes, c'est trop dommage. Enfin, moi, là, j'ai 7 litres dans mon frigo. Enfin, c'est trop, trop dommage ce qui se passe là, quoi. Ils disent, on va les appeler et tout. Et en fait, non, leur protocole était comme ça et tout. Ouais. Ils voudraient changer, mais ça se fait pas comme ça.
Ouais, enfin, bien sûr. Quoi.
Donc, non, c'était fichu.
Poubelle.
Ouais.
Tu t'es même pas fait des bains, Cléopâtre?
Si, un peu, mais bon, à toi, c'est... Bon, voilà, quoi. Ouais. Ça limite, hein, c'est pas... J'avais pas tellement le temps, et puis bon, c'est pas... Mais, j'ai essayé de cuisiner, j'ai fait des flans, j'ai fait des savons, enfin, tu vois, mais enfin, bon, au bout d'un moment...
Ouais. Oui, bah, à raison d'un litre par jour, c'est vrai que...
Ça va, quoi, ça, t'as fait beaucoup de savons et beaucoup de flans, quoi, enfin, franchement. Bon, bref... Et donc voilà. Donc au début, je tirais pour me soulager. Et puis en fait, assez rapidement, ça s'est fait avec le rythme. Hein.
Et après, t'as arrêté de tirer.
Et j'ai arrêté de
tirer
au bout de 2-3 mois. Elle partait 2 jours et demi. Elle revenait. Elle avait son lait.
Oh, easy.
Il y avait la montée de lait qui se refaisait. Ouais.
Oh, génial. Ah, ouais.
Après, tu vois, quand elle était pas là, quand j'y pensais, j'avais une montée de lait, quand il y avait des bébés qui... Mais ça a duré longtemps, parce que ça a duré au moins 1 an et demi après le sevrage, hein. Un bébé qui pleure, c'est récent que ça remonte plus, quoi. Donc,
Ah ouais, c'est
mais, ouais,
bien
ça,
présent.
Tu vois, c'est bien présent. C'est pour ça, je pense que ça dépend aussi effectivement des lactations quand même. Moi, c'est vrai que ça s'est fait vraiment facilement et ça s'est adapté. Mais peut-être que ça peut jouer, que j'étais vraiment pas stressée du truc, je pense.
Oui, sûrement que ça... Oui, la détente autour... Et comment il le vivait, je sais pas si tu as eu beaucoup de ces échos émotionnels autour de ça, mais il était OK pour que cet allaitement y continue. Bah, lui, finalement, en fait, de toute façon, elle prenait pas quand il était chez lui, donc lui, ça lui changeait pas la vie.
Non, ça lui changeait pas la vie, elle mangeait normalement.
Il était content
que
tu continues, du coup ?
Oui, il était relativement... Je pense que oui, il était... Vraiment en mode papa, que sa fille est le meilleur encore jusqu'à ce que ça dure, c'était très bien.
Ok, super.
Ouais, en termes santé, en termes, mais pas que, enfin hein, aussi attachement, sécurité, tout ça. Et il le dit encore aujourd'hui, enfin hein, quand même, parce que Mélina, elle est voilà, effectivement, elle est ultra sécure, très indépendante, elle a peur de rien, enfin elle est. Voilà, et alors c'est certainement dans son caractère, mais il pense quand même que voilà, que tout se. ce don limite sacrificiel à ce moment-là a quand même
aidé.
A quand même aidé et a joué dans, ouais, dans cette sécurité quoi, très profonde qu'elle a. Quoi.
Ouais, je comprends. Mmh. Et alors, donc là, vous êtes séparés. Elle a 18 mois, n'est-ce pas?
Ouais.
C'est ça. Bon, vous vous êtes pas remis ensemble, donc ça, vous avez continué comme ça. Ouais. Quand est-ce que tu as décidé que, parce que si j'ai bien compris, tu voulais aller vers du sevrage naturel, mais ça s'est pas tout à fait passé comme ça.
Ça s'est pas tout à fait passé comme ça, parce qu'en fait, je m'étais dit sevrage naturel, voilà. Et puis là, en avançant, je me dis, donc Ali Rose est à l'école et tout, tu vois, là, elle commence à avoir 2 ans, je me dis, ah, je me vois moyen à l'école quand même. Je me vois moyen encore en train d'aller à l'école. Du coup, bah, entrer à l'école, quoi, 3 ans. Comme elle est du mois d'août en plus, voilà, donc encore un an. Voilà, encore
est-ce que c'est tes anciennes, pas préoccupations, c'est pas le mot, mais tu vois, tes vieilles images de l'allaitement bah, d'avant, les grossesses
Non,
qui,
alors
qui
pas, pas du tout pas pour du tout. Moi, non, pas du tout moi dans ce que je ressens. C'est plutôt par rapport au regard des autres et à ce qui va pouvoir être dit à l'école et de comment mes enfants pourraient en pâtir. C'est vraiment mettre de côté moi ce que je ressens et mes convictions pour voilà, le côté deal que tu as toujours entre tes convictions profondes quand une fois que tu as tes enfants à l'école et tout ça et ce que tu crois profondément et en même temps tu veux pas que ce soit des étendards et des porte-drapeaux qui s'en prennent plein la quiche pour les convictions de leurs parents, enfin tu vois ce deal que tu dois faire tout le temps, bah là c'était un peu ça.
D'accord.
C'était plus de cet ordre-là.
Mais toi, tu avais complètement mis de côté ce que tu pouvais penser de l'allaitement avant d'envisager d'allaiter.
Mais
ça,
alors,
c'était quelque chose qui t'a pas du tout suivi.
Non, du tout. Pas du tout, du tout. Et puis, en fait, eh bien, elle a eu 2 ans et est arrivée en, donc au mois d'août et arrivée en, je pense, en, à peu près au mois de septembre. Ça a commencé à me... J'ai commencé à avoir une aversion que j'avais pas trop eue. J'avais eu un peu dans des états d'épuisement, vraiment, parfois la nuit et tout ça, mais pas en journée comme ça et tout. Et là, stop. Là, et voilà. Et en fait, par contre, c'est devenu. Ça n'a pas été crescendo très lentement. Hein. C'est arrivé vite et fort. Et je ne m'y attendais pas.
Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans la même période qui pourrait expliquer ça? Tu vois quelque chose à cette période-là tu vois, qui fasse que ça se déclenche aussi vite et fort? Est-ce que c'est le moment où tu prends la décision que bah, l'année d'après, du coup, ça devra s'arrêter?
C'est le moment, je pense quand même que c'est le moment où j'ai un nouveau compagnon, où j'envisage peut-être d'avoir un autre enfant.
Ah.
Je pense qu'il y a une suite qui se, du coup, peut-être qui s'enclenche dans ma tête et je sais pas vraiment l'expliquer. Mais ça peut être ça. En tout cas, c'est concomitant.
Ok. C'est peut-être. Intéressant. Ok. En tout cas, ça arrive vite et fort. Tu supportes plus les tétés.
Non, je supporte plus les tétés et.
Ça fait mal? Ou c'est juste le besoin de dégager?
Ça fait pas mal, c'est vraiment le... Alors, c'est pas tant de dégager, c'est de me... On me touche plus, quoi. J'ai plus envie qu'on me touche. J'ai envie de me... J'ai envie de réappartenir qu'à moi-même.
D'accord.
À ce moment-là, tu vois. C'est vraiment ça. J'ai jamais eu la sensation, je le dis un peu après coup, des fois, je dis ce don un peu sacrificiel et tout, mais moi, j'ai pas eu l'impression de me sacrifier quand j'étais dedans. J'étais quand même heureuse, j'avais plein de bons moments, j'arrivais parfois à prendre quand même un petit peu de temps pour moi, tu vois. Mais là, c'était plutôt, non, je veux me retrouver moi-même et moi-même, quoi. Enfin, c'était, voilà.
Okay.
Et donc, du coup, eh bien, ça a été au mois de novembre, je crois, que je lui ai expliqué que là... Ça allait se finir. Et puis, il y a aussi qu'elle elle continuait encore à se réveiller la nuit, à venir téter la nuit et tout. Et ça, franchement, là, je ne pouvais plus.
Là, ça y est, hein. Ça va bien.
Là, c'était bon. Je pense que la sécurité, c'était bon. Tout était... Non, là, je ne pouvais plus, franchement. Franchement, non. Et donc, voilà. Et donc, du coup, ben, le sevrage, il s'est fait en pas très longtemps, hein. Je pense en 15 jours.
Ok. Voilà, t'étais décidée. C'était plus possible.
Non, c'était plus possible.
Comment tu lui as expliqué?
Ça a été dur. Je lui ai parlé, je lui ai expliqué que je pouvais plus, que vraiment j'avais pensé que aller jusqu'à ce que ce soit elle qui décide d'arrêter, mais qu'en fait du coup on était deux et que bah moi je pouvais plus et que j'aimerais bien pouvoir, mais que je pouvais plus. Alors que j'avais plus envie et que au-delà de plus avoir envie, ça me faisait pas du bien, quoi, et que c'était dur pour moi. Je sais plus quel mot j'ai utilisé simple avec elle à l'époque, mais un peu de cet ordre-là. Et on a essayé de voir avec elle si on pouvait trouver un biberon. On a essayé de voir. Bon, et puis en fait, elle n'a jamais spécialement pris quoi que ce soit. En fin de compte, ça s'est arrêté. Elle avait 2 ans et demi. Enfin, bon.
Ouais.
Elle mangeait normalement. Enfin, il n'y a pas de. Voilà. Mais par contre, ça a été beaucoup de pleurs, beaucoup de... Voilà. Après, voilà. Bon, de toute façon, Mélina, quand elle s'exprime, c'est très fort et tout ça. Donc, voilà. Mais c'est vrai que ça a pas été facile pour elle. Je pense que ça n'a pas été facile pour elle. Elle a 5 ans, ça lui arrive encore de demander. Elle s'en souvient.
Ah ouais.
Elle a demandé longtemps, hein, quand même. Elle a demandé longtemps à téter. Après, voilà, sans...
Oui.
Je sais pas, non, tu sais bien que c'est fini tout ça, mais bon.
Ça a été dur pendant combien de temps? C'est 15 jours?
Ça a
là,
été dur pendant 15 jours, ouais.
Parce que du coup, elle revenait tout le temps, elle te demandait, elle pleurait de frustration.
Ah ouais, puis elle tirait le t-shirt, elle allait chercher, enfin bon, c'était... Et ça, je supportais plus, ça faisait vraiment partie aussi de ça, parce qu'elle était un bambin, c'est pas du tout comme elle était un bébé.
Bien sûr.
Et elle était un grand bambin, c'est pareil, un bambin de 12 mois, de 13 mois, c'est pas du tout comme un enfant de 2 ans et demi.
Bien sûr.
Et voilà, et il y a 2 ans et demi, eh bien, c'est vrai qu'ils ont une autonomie qui est telle que voilà, ils viennent vraiment servir. Enfin, c'est compliqué de mettre. Ils sont grands et en même temps, ils ne sont pas encore suffisamment grands pour mettre encore qu'ils comprennent bien les barrières précises du consentement, du machin et tout. Enfin, je veux dire, c'est compliqué quoi. Enfin, donc, du coup, tu es un peu dans un entre-deux où tu ne peux pas tellement faire autrement quoi. Donc, du coup, ils arrivent, ils ouvrent, ils machin, ils se branchent. Et ça, je pouvais plus.
Ouais, et puis surtout sur un bébé qui avait eu l'habitude de que ce soit vraiment open bar H24, ouais, parce qu'elle avait un grand besoin d'être assurée, etc.
Exactement.
Et que c'était par là qu'elle trouvait.
Tout à fait.
Qu'elle trouvait
le confort.
Du
coup, là, il a fallu trouver d'autres moyens et les câlins. Et puis bon, bah.
Ouais,
voilà.
Comment t'as compensé
ça? Elle a redormi pas mal avec moi au début. Et puis en fait, elle a trouvé. Elle roulait la peau. Elle roulait la peau du cou, elle roulait la peau de la main, elle roulait la peau là. Et ben c'est comme ça qu'elle a trouvé. Et puis en fait, elle a jamais pris de doudou. Et je pense qu'au bout d'un mois, j'ai quand même proposé plusieurs fois la tétine. À 2 ans et demi, ça faisait tard, mais je voulais pas en fait que comme il n'y avait plus l'allaitement pour la rendormir la nuit, je voulais pas que mes nuits redeviennent vraiment très catastrophiques.
Ah oui, tu m'étonnes.
Plusieurs fois, ouais. Voilà, plusieurs fois j'ai reproposé la tétine, elle la voulait pas, mais je lui ai reproposé d'autres, etc. Et elle a fini par la prendre, en fait. Elle a fini par prendre la tétine, et là, quand même, ça a quand même.
Ça lui a permis de s'apaiser et de trouver la détente qu'elle trouvait en tétant.
Absolument, absolument. Et elle l'a quittée, tu vois, elle l'a gardée 1 an et demi, quoi.
Ça va.
C'était pas. Non, franchement, ça va. Hein. Elle l'a lâchée à 4 ans, vraiment. Hein. De toute façon, il n'y avait pas photo, enfin. Donc, mais là, c'est vrai que les considérations sont très différentes. C'est encore une fois, hein, à 2 ans et demi, tu vois, je n'aurais jamais donné une tétine à 6 mois parce que, voilà, pour toutes les raisons qu'on connaît. Et puis, je sais aussi qu'il y en a où ça se passe tellement crème,
bah ouais,
avec la tétine plus l'allaitement et tout, c'est nickel. Enfin, bon, voilà. Elle, je savais que vu les problématiques qu'il y avait eu de frein et tout, c'était vraiment pas le genre de bébé où il fallait peut-être faire ça. Mais voilà. Donc, voilà, ça s'est fait comme ça. Et.
Mais elle a quand même continué de redemander de temps en temps.
Ouais. Elle a vachement demandé pendant 1 an et ça lui arrive encore. La dernière fois, là, ça devait être il y a 2 mois, tu vois, un peu avant ses 5 ans, mais ouais.
Ouais, elle a gardé un souvenir très net.
Ouais, elle en a gardé un souvenir très net. Il faut dire que ça a vraiment... En plus, ça a fait partie de notre vie. C'était intense. Mais en plus, c'est vrai que comme c'est devenu en plus une... Parler de l'allaitement et communiquer sur les réseaux, c'est devenu carrément une activité accessoire pour moi.
Ouais.
C'est devenu... J'ai un cumul d'activités. Enfin, donc, c'est devenu vraiment une partie de la vie régulièrement. On a été invité régulièrement à des événements, etc. Là-dessus, elle est venue avec moi. Enfin... Il y a eu quand même beaucoup de choses là-dessus. On est passé à la télé, elle aussi. Enfin bon, il y a eu quand même il y a eu plein de trucs à ce sujet qui a pas mal influé sur nos vies, quoi.
Ouais, bah, bien sûr.
C'était une grosse étape qui s'arrêtait. Et bon, voilà, c'est vrai que depuis, je me suis un petit peu écartée de ce monde-là. Et puis aussi, j'ai changé, les enfants ont grandi, je suis moins militante que j'étais, j'étais assez militante à un moment donné, beaucoup moins aujourd'hui, enfin en tout cas plus du tout de la même façon. Je pense que ça avait été tellement dur et on se battait en fait tellement contre des injonctions très très fortes à l'époque, on était très peu et donc du coup on était très jusqu'au boutiste sur certaines choses, on l'est beaucoup moins aujourd'hui. Je pense que même les gens qui étions comme ça à l'époque, on s'est quand même beaucoup apaisé parce qu'on est plus nombreux et qu'on se sent quand même moins en difficulté et moins en lutte quoi, évidemment.
Oui, et puis parce que c'est comme tous les combats, en fait, il y a toujours des gens dans tous les combats qui parlent très très fort à un moment quand il y a un combat à mener comme ça, parce qu'il faut parler fort pour se faire entendre.
Parce qu'il faut, c'est exactement ça.
Et après, on t'en perd.
C'est ça. Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà, et c'est vrai que j'en parle encore vraiment très volontiers, parce que c'est vrai que j'ai vécu, à part la fin d'un sevrage naturel décidé par l'enfant, j'ai vécu beaucoup de choses sur ces deux allaitements-là, quoi, y compris la reprise du travail, y compris des difficultés, y compris un allaitement quand même relativement long, etc., une séparation, enfin bon voilà, j'ai eu un peu un bon gros panel de merdouilles qui peuvent se passer. Donc.
Ouais, ouais.
Et puis voilà, et puis ça a été quand même... Il n'y a pas un seul... j'ai pas un seul souvenir négatif de tout ça, quoi. Enfin, vraiment pas. Hein.
Ouais, si ce n'est l'épuisement.
Ouais, si ce n'est l'épuisement.
Mais ceci dit, allaitement ou pas allaitement, hein,
Oui, oui. Je pense que allaitement ou pas allaitement, honnêtement, là, ça aurait rien changé. Hein, son reflux et ses problèmes ORL, ils étaient là. Enfin,
bon, ça aurait même été pire avec du lait de vache. Donc,
Ah oui, c'est très certainement. Et tu vois, aujourd'hui, elle a 5 ans. Les yo-yos, on lui a retiré il y a 2 ans. On a dû lui remettre en urgence 3 mois après. Enfin, je veux dire, son problème, elle l'a. Il y a vraiment quelque chose. Et elle les a toujours à 5 ans, là. Donc,
Ouais. Comment ton entourage a vécu tout ça ? Donc, bon, ton ex-conjoint, on a compris. Il a été... soutenant dans un premier temps, et puis après, bon, voilà, vos relations se sont un peu distendues, l'épuisement, enfin, ce qui arrive à pas mal de couples, hein, finalement, après, et puis deux enfants rapprochés, bravo.
Ouais. c'est vrai que c'est
Ouais, parlons-en, deux enfants, moi, je connais pas ça, et pour cause, c'est que, comme je l'ai vu chez les autres, je l'ai pas fait chez moi.
Oui, non, mais c'est vrai que autant ça c'est a intense. Pas eu, y a pas eu de changement entre pas d'enfant et un, vraiment pas de changement, enfin, au niveau du rythme, de tout, de la vie de couple et tout, autant entre et deux,
tout le monde dit que c'est la tornade.
Ouais, après ça dépend effectivement quand même du caractère des enfants, parce que t'en as qu'en ont un qui est déjà un peu costaud, et puis le deuxième qui est beaucoup plus crème, donc bon, c'est vrai que là, exactement, par rapport à ça, on n'est pas...
Voilà, mais une chose est sûre, le rythme de deux enfants est rapproché de surcroît.
Ça, c'est voilà, sûr. Et de toute façon, c'est...
Mais bouleverse l'équilibre et bon, voilà.
Tout vous, à fait. En
tout
bouleverse cas, l'équilibre et puis je pense que si c'est pas solide et que s'il n'y a pas l'essentiel qu'il faut, bah ça explose, quoi. Enfin, et en même temps, voilà. Et en même temps, bon ben. Bah, moi, je pense, avec le recul aujourd'hui, parce que ça fait 3 ans et demi, c'est ce qu'il fallait faire. Hein, tu vois, c'est vraiment...
Ouais, c'était la bonne décision.
Oui, oui, c'était vraiment la bonne décision.
Ensuite, tu t'es remise donc avec quelqu'un dans la foulée, qui avait des enfants ?
Non.
Non, qui n'a pas d'enfant.
Non.
Comment il a vu cette expérience d'allaitement ? Parce que tu allaitais un bambin à cette période-là. Ouais, à un moment, on sait qu'aujourd'hui, l'allaitement du bambin, c'est toujours pas... L'allaitement n'est déjà pas normalisé, mais l'allaitement du bambin, n'en parlons pas. Comment il est arrivé sur ce terrain-là ?
J'ai expliqué, j'ai absolument pas laissé le choix. Donc,
j'imagine bien.
Voilà. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Après, ça n'a pas duré longtemps, parce que du coup... j'ai sevré assez peu de temps après.
Ouais.
Donc du coup, il n'y a pas eu une grande période, mais non, ça se passait très bien. D'ailleurs, il y a des photos il y a pas mal de photos d'allaitement à cette période qu'il a prise et tout ça. Franchement, ça se passait, ça a été très bien perçu.
Ok. Et le reste de son entourage par rapport à ses allaitements?
On n'a pas vu le reste de l'entourage.
Ah, d'accord.
Donc voilà, okay. Ça c'était réglé. Et puis voilà. Et puis non, mais de mon côté, moi, l'entourage, j'ai eu certaines remarques assez désagréables, mais du coup, j'ai pu voir ces gens-là pendant le temps que j'allaitais, tout simplement.
Voilà.
Voilà. C'est tout.
Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions.
Ah non, absolument. Et puis les autres, je pense que voilà, ils savaient. C'était soit de toute façon, il y avait des remarques désagréables et donc on ne se verrait plus, soit il n'y en avait pas. Donc, enfin.
Bah, c'est une bonne technique, hein, voilà. Si jamais vous avez une partie d'entourage qui n'est pas.
En réalité, ce n'est pas un sujet, en fait. Ça n'enlève. Enfin, moi, ça n'enlève rien aux gens. Donc, c'est toi, la mère, là, et les parents qui sont crevés et qui ont des petits. Donc, on est sympa, et puis si on ne l'est pas, on ne se voit pas, et puis c'est tout.
Bah voilà. Enfin, ça n'empêche pas de se revoir plus tard.
Non, voilà, c'est ça. Mais bon,
voilà,
c'est ça.
Pour un temps donné.
Exactement.
On va s'éloigner un petit peu. Bon, très bien. Écoute, c'est une très bonne technique. Je valide. Du coup, j'allais te poser la question du don de lait tout à l'heure, mais bon, en effet, t'as évidemment demandé, mais on n'a pas pu, ça n'a pas été possible.
C'est vrai qu'en fait, à Nantes, c'était 6 mois, et comme j'ai gardé Mélina avec moi 6 mois, bah, au moment où j'ai repris et où du coup j'ai tiré et que j'aurais eu du lait pour leur donner,
c'était déjà trop tard.
Et c'est vraiment dommage parce que du coup c'est quand même là que beaucoup on peut tirer vraiment très facilement et là on pourrait donner de façon régulière en plus et en plus ils auraient un fond de roulement et des entrées régulières de lait parce qu'on sait exactement à peu près combien on va tirer quand on se remet à bosser et tout.
Ah ouais, bien sûr.
C'est vraiment dommage quoi.
Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que c'est assez dommage parce que c'est à cette période là que c'est le plus facile en effet dans les démarrages. On est un peu parmonts et parvots, c'est pas évident. Alors du coup, ce serait quoi ton meilleur conseil pour une maman qui a envie d'allaiter ?
Moi, ça serait vraiment de partir à la maternité avec les numéros qu'il faut. Et avec, plan A, plan B si ça répond pas, plan C si ça répond pas, plan D si ça répond pas. Mais vraiment, parce que les premiers jours, ils sont cruciaux. Et vraiment, il y a des gens qui sont super à la maternité, qui sont formés. Il y en a qui sont super, qui sont pas formés, mais qui le savent et donc qui disent qu'ils savent pas et qui vont pas te mettre sur des mauvaises pistes. Donc ça, c'est super aussi. Par contre, il y en a encore qui sont pas formés, qui savent pas, ou qui veulent pas, ou qui ont un ego comme ça, et que voilà, et qui eux te font foncer vraiment, vraiment pas du bon côté. Et donc, pour éviter ça et pouvoir contrebalancer et avoir les bonnes infos dans les oreilles, je pense que vraiment faut avoir les numéros. Donc, d'une consultante IBCLC en premier, clairement, la Lecce League. Moi, j'avais fait des réunions aussi avec la Lecce League avant, quand j'étais enceinte. Je pense que ça m'avait quand même pas mal aidée. Donc j'avais plusieurs numéros de Nana de la Lecce League au cas où, parce que comme c'est que des bénévoles, elles peuvent pas toujours répondre et tout. Mais du coup j'en avais beaucoup. Enfin, c'est pas juste deux et puis ils répondent pas, mince, on est fichu. Non, je pense que j'avais au moins 6 ou 7 niveaux quoi, comme ça.
Ouais, t'étais sûre
d'avoir quelqu'un. Je m'étais renseignée avant les ORL qui s'y connaissaient en allaitement, les médecins qui étaient ok allaitement et tout ça quoi, pour vraiment avoir tout ce qu'il fallait quoi.
Ok.
Donc, je pense que c'est vraiment ça qui a changé la donne.
Et ton conseil à une maman dont le couple se brise, enfin voilà, qui se sépare et qui a envie de continuer d'allaiter. Dans ton cas, c'est vrai qu'à 18 mois, ça a quelque part un peu facilité les choses parce qu'en plus avec une petite qui prenait pas ses bibes,
C'est ça. Et ça a permis la garde alternée parce que elle aurait eu 6 mois. Évidemment, là, par contre, la garde alternée aurait pas été possible.
Ouais.
Mais je pense que honnêtement, on se serait pas séparés plus tôt non plus. Je pense qu'il y a un moment donné, justement, c'est ce qu'on disait. Les enfants trop petits et la fatigue aidant, à moins que vraiment, et ça peut arriver, où il faut se sauver, enfin, évidemment. Mais sinon, tant pis, là, l'équipe parentale, elle est trop essentielle. Et puis, il faut un peu mener la barque dans cette configuration-là pour l'instant. Et puis, c'était arrivé à un moment donné où la séparation, elle était faisable aussi, tu vois.
Ouais.
Et où la garde alternée était faisable. Donc je pense que mais alors il y a pas mal de mamans aussi moi qui m'écrivent qui se séparent parce que ils ont des grosses pas incompréhensions mais ils sont vraiment pas d'accord justement sur l'allaitement, sur la façon d'éduquer les enfants, etc. Alors ça me surprend toujours un petit peu qu'on ait fait des enfants ensemble avec des visions si différentes des choses, mais
parfois malheureusement les questions se posent pas avant parce que
c'est ça bon. Et puis, mais parce qu'il y a aussi qu'en France, on n'a pas trop la culture du date très précis avec des questions et tout ça. On n'a pas du tout ça en France, c'est bien dommage parce que du coup, des fois, juste, on sort ensemble et tout, et ça fait un couple et on y va. Et en réalité, on ne s'est pas posé les questions super essentielles qui vont faire les super gros défis de la vie derrière. A priori, ce n'est pas parce qu'on se les pose non plus que ça veut dire qu'on ne va pas se séparer. Mais c'est vrai que des fois, il y a quand même des choses qu'on aurait pu se rendre compte. Après, il y a aussi les choses où... comme moi, je voulais, par exemple, pas du tout allaiter avant. Et puis, en tombant enceinte, les choses ont changé, quoi.
Ouais, c'est qu'on évolue aussi.
Cette fibre est arrivée. Absolument, on évolue aussi. Donc, je pense que moi, j'avais pas cette difficulté-là, parce que du coup, on était complètement d'accord avec ça. Leur papa avait été allaité aussi aux enfants, et il s'en souvenait. Il avait même des souvenirs. Donc, Et puis, aux États-Unis, c'est quand même c'est quand même beaucoup moins diabolisé, l'allaitement.
Ouais.
Ouais, jusqu'à 2 ans, c'est jusqu'à 6 mois sans trop de soucis, et même un peu plus grand, c'est quand même plus admis qu'ici.
D'accord.
Et pourtant, à l'époque, donc quand on était petit, tu vois, donc. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas ce souci-là. Je pense que quand il y a ce souci-là pour continuer l'allaitement dans une séparation avec un papa en plus qui n'est pas forcément soutenant et qui n'est pas pour, c'est c'est quand même pas évident. Et je pense que là, à part garder le petit et pas faire de garde alternée, ça ne va pas forcément être simple. Quoi. Après, si l'enfant est plus grand, bah, je pense que ça peut se faire assez aisément. Hein.
Ouais.
Et puis, si la lactation ne suit pas, par exemple, comme la mienne a suivi et s'est adaptée hyper facilement, on peut aussi se mettre une petite routine de tire-lait. Ça, c'est tout à fait possible. Moi, je l'ai fait en reprenant, en travaillant. Mais on peut tout à fait le faire parce que la raison, c'est la garde alternée. Enfin, je pense que vraiment,
ouais,
ça, c'est faisable. Hein.
Ouais, ouais, c'est...
que ce soit trop pénible.
Mmh. Oui, et puis après, à chacun de voir ce qui est gérable ou pas gérable.
Oui, c'est ça. Dans la mesure où on veut absolument continuer l'allaitement, si c'est ça, là, l'intérêt supérieur à ce moment-là, je pense qu'il y a moyen de trouver une orga, quoi.
Ouais, ouais. Ouais, bien sûr. Je pense aussi. Au niveau professionnel, ça a changé des choses, du coup, dans ta vie ?
L'allaitement ?
Ouais. Ça a été des opportunités à un instant T, ça t'a...
Ah oui, alors ça m'a... si, quand même, parce que c'est quand même ça qui m'a conduit sur Instagram.
Oui.
Donc c'est plutôt de ce côté-là, dans mon boulot régulier et tout, pas tellement, si ce n'est que toute cette expérience d'allaitement, ça m'a quand même... je me suis affirmée énormément hein, sur... globalement, de ma personne, quoi. Globalement, ça m'a donné pas mal de force et d'assurance sur tout le reste, hein, quand même.
De l'ancrage.
Ouais. Tout à fait, c'est exactement le mot. Et après, professionnellement, effectivement, du coup, en activité bis, du côté plutôt Instagram, communication, etc., ça a déclenché pas mal de choses parce qu'en fait, il y a la marque MAM qui m'a contactée assez rapidement. Et donc, du coup, on a fait de la pub pour MAM, pour les tire-laits et les biberons. C'était aussi au moment où je reprenais le travail, etc. Donc, c'était sur la reprise du travail, l'allaitement, etc. Et puis, on avait fait toute une campagne aussi sur le soutien du papa dans l'allaitement, justement. Ça, c'est... Mélina devait avoir un peu moins de 6 mois. Donc, du coup, effectivement, il y a eu une... on a eu un petit côté... peu médiatique quoi à l'époque, ouais. Si on peut appeler ça comme ça, enfin voilà. Et puis voilà, ce moment où on est passé aussi voilà avec Mélina à la télé, etc., où on a commencé, et c'est vraiment le moment où tu vois, c'était il y a 5 ans où on a commencé vraiment, et où il y a des influenceuses qui ont commencé à parler de ça, quoi. À réhabiliter l'allaitement comme quelque chose de pas honteux, de normal, de naturel, etc., etc. Et donc effectivement, bah, de fil en aiguille, y a eu ce compte Instagram, il y a eu les événements, il y a eu les invitations, etc. Et c'est pas un compte qui a jamais explosé parce que c'est pas du tout effectivement mon activité, quoi. Hein, et ça le sera pas, c'est pas du tout le but. Mais par contre, ça m'a quand même du coup créé complètement une activité bis, quoi.
Ouais.
Et du coup, j'ai demandé un cumul d'activités à mon travail, etc. Pour pouvoir facturer, pour pouvoir faire les partenariats, etc. Et du coup, il y a eu pas mal de... Ouais, j'ai tourné pas mal de podcasts. C'est un des exercices que je préfère. J'aime beaucoup raconter. Donc,
ça se voit.
Raconter plein de choses. J'aime bien raconter des choses de moi, mais j'aime beaucoup raconter un tas de choses. J'aime bien compter, raconter. Donc voilà. Et c'est vrai que ça avait... ça avait commencé, les podcasts, avec Léa de Je ne suis pas jolie.
Ouais.
Ouais. À l'époque, c'était une des plus grosses youtubeuses françaises. Je ne sais pas, j'ai complètement quitté YouTube il y a des années, mais je ne regarde plus tout, je ne sais plus tout quel est le YouTube game aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était une des plus grosses youtubeuses françaises. Et en fait, elle me suivait sur les réseaux, sur Instagram. Et du coup, elle m'avait invitée. J'étais dans, je pense, dans plutôt les premiers épisodes de son podcast, Le Nid. Je ne sais pas si elle le fait encore, si elle le continue, en tout cas.
Je ne sais pas parce que je ne le suis pas, mais j'en ai entendu parler. Puis j'avais interrogé Samuel, son mari. Les démarrages de Milkshaker.
Et en fait, du coup, ce premier podcast, ça avait été à la Tour TF1 à Paris, tu vois. C'était rigolo de rentrer dans le podcast comme ça, mais... j'avais adoré l'expérience, quoi. Ça avait été tellement fluide. Elle m'avait dit d'ailleurs après, on a quasiment rien coupé. Enfin bon, c'était tellement simple.
Ouais.
Donc ça avait été vraiment chouette comme.
Ouais, donc comme ça a fait bouger plein de lignes.
Ça a fait bouger plein de lignes. Ça m'a apporté beaucoup.
Ok, très bien. Est-ce que tu veux répondre donc à mon interview Fast Milk avant qu'on se quitte au CA?
Allez. Je ne sais pas ce que c'est, mais on y va.
Bah, tu vas vite le savoir. Il fallait écouter plus d'épisodes, que veux-tu que je te dise.
Mais je vais. Mais en réalité, en plus, j'ai découvert ton podcast quand...
Bah oui, il n'y a pas longtemps.
Bah, quand on a parlé de nous dans la story.
Oui. Bah oui, donc ça fait pas longtemps, elle ne peut pas avoir tout écouté.
C'est ça.
Mais c'est parfait comme ça, tu vas répondre sans même réfléchir. Océane, c'est quoi ta tétée la plus insolite ?
La tétée la plus insolite ? Oh, c'est une bonne question. Il y en a plein parce qu'en plus, je me suis déjà posé la question. J'avais fait un post là-dessus et tout. Oh, il y en a eu un paquet.
Celle qui devient là, comme un flash.
Dans une église, un mariage, quoi, devant l'hôtel.
Parfait. Ouais. La tétée bénie.
Nickel. Ouais, la tétée bénie.
Le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement. Ça peut être ironique ou non.
Les gens qui ont un réflexe d'éjection fort sauront.
Oui, je connais.
Le viser à 3 mètres, c'est quand même...
À 3 mètres ?
Ça peut être un grand moment. Ah, ouais.
Sur qui c'est arrivé ? Le prêtre à l'église.
Non, c'est arrivé, je sais plus, c'était dans une salle d'attente et heureusement, il n'y avait personne. Mais franchement, tu te sens quand même vachement seule. Et heureusement d'ailleurs que tu es seule à ce moment-là. Mais bon, ça te... Bon,
voilà. On dit toujours que c'est bon pour la peau. À chaque fois, ouais, je le dis. Ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement, c'est quoi ?
Moi, on a toujours allaité en Madone et je pense que c'est ma préférée.
D'accord. Si en un mot, tu pouvais me résumer tes allaitements, alors je vais te demander un mot pour ton premier allaitement et un mot pour le deuxième.
Pour mon premier, je dirais tristesse quand même. C'est vraiment ce qui est resté. Ouais. Ouais. Et pour le deuxième, fierté.
Ok. Parfait. C'est la fin de l'interview Fast Milk. Merci, tu y as très bien répondu. De façon simple et efficace. J'aime. Elle a raison, Léa. Il n'y aura pas grand chose à couper.
Tant mieux. Si je génère pas trop de travail, c'est cool.
Est-ce que tu nous as tout dit, Océane ?
Je pense que j'ai tout dit sur ces allaitements, franchement. Et je pense que vraiment, quand on a envie de le faire et que ça tient à cœur. Comme moi, ça me tenait à cœur et j'étais tellement, tellement triste la première fois que vraiment, renseignons-nous et puis ayons tout dans notre petite trousse à outils parce que c'est obligé que ce soit possible. Enfin, il n'y a pas de raison pour personne que ce soit pas possible. Donc, il faut juste vraiment, vraiment bien s'entourer. Quoi. Enfin,
de temps en temps, il y a des raisons, mais ouais, c'est pas le plus fréquent.
C'est vraiment pas courant.
En tout cas, c'est pas le premier truc auquel il faut penser.
Oui, c'est ça, c'est ça. Donc c'est bien le fait de vous confiance et tout ça, mais surtout entourez-vous des pros.
Ouais. Ouais. Les deux cumulés, ça devrait faire un bon mix. Merci beaucoup de nous avoir raconté tout ça.
Merci à toi de m'avoir accueillie.
C'était une super histoire. Je pense que voilà, ça aidera des mamans. Peut-être ça donnera confiance. Si pour une raison ou pour une autre aussi, dans une séparation, l'allaitement pouvait être un truc... freinant pour se séparer alors que c'est la bonne solution pour le couple et pour la famille.
Exact. Il faut pas mettre, de toute façon, c'est que ce soit sur l'allaitement ou effectivement que ce soit sur l'allaitement ou sur les enfants, il faut pas mettre le fardeau de rester dans un truc qui convient pas sur le dos, sur l'allaitement ou sur les enfants. Enfin, non. Voilà, ça va pas, on trouvera des solutions et pour l'allaitement y compris.
Ouais, voilà. Voilà, de façon générale, je suis assez d'accord avec toi. Bon, et écoute, et du coup, ta vie amoureuse, on veut savoir avant de partir.
Ah, on veut pas savoir.
On veut pas savoir. Ok. Bref. Merde, tu vas avoir un truc à couper. T'es chiante.
Oh non. On peut laisser.
Allez, parfait. Salut Océane. Merci beaucoup d'avoir répondu à Milkshaker.
Merci à toi.
Et puis à tous et à tous, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, je te rappelle que tu peux t'abonner, noter sur ta plateforme d'écoute préférée et faire voyager ce podcast pour que l'information circule au maximum. Et si toi aussi ton histoire vaut le coup d'être entendue, que tu as envie de réagir à l'un des thèmes abordés dans le podcast avec ton expérience, tu as la possibilité de me laisser un vocal de maximum 5 minutes pour me raconter ton histoire ou un épisode marquant de ton allaitement. C'est très simple, tu te rends sur mon site internet milkshaker.fr, tu cliques sur le lien qui s'affiche pour témoigner et peut-être que tu t'entendras bientôt dans un épisode. Toujours sur milkshaker.fr, tu retrouveras tous les épisodes enregistrés depuis 2020. Ils sont là pour t'apporter toujours plus d'informations et de transmissions autour de l'allaitement maternel. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe, pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, au centre IG4U que j'ai créé en 2020. Tu y trouveras aussi une équipe de thérapeutes spécialisés dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site IG4U.com, IG ça s'écrit YGY, et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais d'ici là, à tous, n'oubliez pas,
prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
Yeah.